Le comte de Poitiers n'avait pas prononcé une parole. Il balançait une jambe et se caressait pensivement le menton.
Troisième partie, le temps de la comète. Le nouveau maître de Naufle.
Le second jeudi après l'épiphanie, qui était jour de marché, il y avait grande agitation à la banque lombarde de Naufle-le-Château. On nettoyait la maison de fond en comble. Le peintre du village couvrait d'un enduit neuf l'épaisse porte d'entrée. On astiquait les coffres forts dont les traverses de fer brillaient mieux que l'argent. On passait le balai entre les poutres pour enlever les toiles d'araignée, on chaulait les murs, on cirait les comptoirs, et les commis cherchant les registres épars, les balances, les échiquiers à calcul, avaient peine à garder leur calme devant la clientèle. Une jeune fille d'environ 17 ans, haute de taille, belle de traits, les joues colorées par le froid, franchit le seuil et s'arrêta surprise par ce remue-ménage. Au manteau de camelin beige dont elle était emmitouflée, au fermail qui retenait son col et à tout son maintien, on reconnaissait une fille de noblesse. Les villageois ôtèrent leurs bonnets. « Ah, damoiselle Marie !» s'écria Ricardo, le premier commis. « Soyez la bienvenue ! Entrez et venez vous chauffer. Votre corbeillon est prêt, comme chaque semaine, mais dans tout ce mouvement, je l'ai fait serrer à part. » Il fit passer la jeune fille dans une pièce voisine, qui servait de salle commune aux employés de la banque, et où brûlait un grand feu. Il sortit d'un placard une corbeille d'osier couverte d'une toile. « Noix ! Huile, lard frais, épices, farine de froment, pois sec et 3 grosses saucisses, dit-il. Tant que nous aurons à manger, vous en aurez aussi. Ce sont les ordres de messire Guccio. Et j'inscris tout à son compte, comme de coutume. L'hiver commence à se faire long, et je serais surpris qu'il ne finit pas par une disette, ainsi que l'an passé, mais cette année, nous serons mieux pourvus. »
Marie de Cressay prit le corbeillon. Point de lettre ? Demanda-t-elle.
Le premier commis secoua la tête avec une feinte tristesse.
« Eh non, belle damoiselle, pas de lettre cette fois !»
Il sourit du désappointement de la jeune fille et ajouta
« Non, pas de lettre, mais une bonne nouvelle !»«
Il est guéri !» s'écria Marie.
« Et pour qui croyez-vous que nous fassions tous ces apprêts en plein cœur de janvier, alors qu'on ne repeint jamais avant l'avril venu ?»«
Ricardo, est-ce donc vrai, votre maître arrive ?»
Et si par la Madone, il arrive, il est à Paris et nous a fait annoncer qu'il serait ici demain.
Que je suis heureuse de le revoir. »
Puis, se reprenant comme si l'explosion de sa joie eût manqué de pudeur, Marie ajouta
« Toute ma famille va être bien heureuse de le revoir. »
Il a demandé qu'on lui aménage un logis. Tenez, damoiselle Marie, je voudrais votre avis sur ce que nous lui avons préparé et que vous me disiez si vous le trouvez à votre goût.
Il la conduisit à l'étage et ouvrit la porte d'une chambre de bonne dimension, mais basse de plafond, où les solives venaient d'être cirées. Elle était garnie de quelques meubles de chêne assez grossiers, d'un lit étroit, mais couvert d'un beau brocart d'Italie, de quelques objets d'étain et d'un chandelier. Marie fit des yeux le tour de la pièce.
« Tout ceci paraît fort bien, » dit-elle, « mais j'espère que votre maître bientôt aura sa demeure au manoir. »
Ricardo sourit à nouveau.
« Je le crois aussi, » répondit-il. « Tout le monde ici, je vous assure, s'intrigue bien de cette arrivée de messire Guccio et de la nouvelle qu'il veut résider parmi nous. Depuis hier, les gens ne cessent d'entrer et de nous déranger pour un rien, à croire que personne d'autre dans le bourg ne peut leur compter le change de 12 deniers d'un seul. Tout cela pour ces beaux dires des travaux et sans faire répéter la raison. Il faut dire que messire Guccio est moult aimé dans ce pays depuis qu'il a réussi à enchasser le prévôt portefruit dont chacun avait à se plaindre. On va lui réserver grand accueil. Je le vois tout juste devenir le maître de Naufle. Après vos frères, bien sûr, » ajouta-t-il en reconduisant la jeune fille qu'il fit sortir par la porte du jardin.
Jamais le chemin qui séparait le bourg de Naufle du manoir de Cressay n'avait paru plus court à Marie.
« Il arrive, il arrive, il arrive !»
se répétait-elle comme une chanson, en sautant d'une ornière à l'autre.
« Il arrive, il m'aime et bientôt nous serons mariés. Il va être le vrai maître de Naufle. »
La corbeille de vivres était légère à son bras. Dans la cour de Cressay, elle rencontra son frère Pierre qui sortait des écuries.
« Il arrive !» lui cria-t-elle.
« Qui arrive ?»
C'était la première fois depuis des mois que Pierre de Cressay voyait sa sœur manifester une vraie joie.
« Guccio arrive !»«
Ah, la bonne nouvelle !» dit le garçon. « C'est un gentil compagnon et j'aurai plaisir à le revoir !»
Il vient demeurer à Naufle, dont son oncle lui donne le comptoir, et surtout...
Elle s'arrêta, mais incapable de taire son secret plus longtemps, elle attira le visage mal rasé de son frère, l'embrassa et ajouta
« Il va demander ma main !»«
Ah bah !» fit Pierre. « Et d'où te vient cette idée ?»«
Ce n'est pas une idée, je le sais, je le sais, je le sais !»
Attiré par le bruit, Jean de Cressay, leur aîné, sortit à son tour de l'écurie où il était en train de panser lui-même son cheval. Il tenait un bouchon de paille à la main.
« Jean, il paraît qu'un beau frère nous arrive de Paris, » dit le cadet.
« Un beau frère ? Le beau frère de qui ?»«
Notre sœur s'est trouvée un époux. »
« Eh bien, voilà une bonne chose !» répondit Jean.
Il entrait dans le jeu de la bonne humeur et croyait à une farce de gamine. Pierre de Cressay était blond, comme sa sœur. Jean avait le poil châtain et portait barbe, une barbe touffue, mal entretenue.